Bonjour à toutes, bonjour à tous, Jérôme Longuet pour ce journal d'ONU Info. À la une, à la journée internationale des migrants, sur le thème de la cohésion sociale. Fin à Genève du premier forum mondial sur les réfugiés. Le bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie condamne l'intensification des hostilités dans le nord-ouest du pays. Et puis Narges Saïdan, la représentante permanente de la francophonie auprès de l'ONU, tire sa révérence. Elle est notre invitée. Le Monde célèbre ce 18 décembre la Journée internationale des migrants, l'occasion pour plusieurs responsables des Nations Unies de dissiper les préjugés à l'encontre des 273 millions de migrants à travers le monde et de sensibiliser l'opinion à leur contribution dans les domaines économiques, culturels et sociaux au profit de leur pays d'origine et de destination. Pascal Sim.
Tous les migrants ont droit à une égale protection de tous leurs droits fondamentaux, a déclaré Antonio Guterres. Le secrétaire général de l'ONU a rappelé que les migrants sont des membres à part entière de la société et a déploré qu'ils soient souvent la cible de discours fallacieux et hostiles. Même si ces sentiments représentent rarement l'opinion générale sur la migration, quelques-uns essayent de nous diviser et de réduire au silence les opinions plus modérées, a pour sa part déclaré Michelle Bachelet, la haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Même constat de la part de la chef de l'UNESCO, Audrey Azoulay, qui regrette que les migrants et réfugiés soient toujours victimes de préjugés, de discrimination et de violence, alors même qu'ils sont très souvent une source de dynamisme économique et d'innovation. Afin de favoriser l'inclusion des migrants dans les sociétés, l'UNESCO agit à travers son programme d'éducation à la citoyenneté mondiale pour vaincre les discours racistes et de haine qui trop souvent font des migrants et réfugiés des boucs émissaires. Le rapporteur spécial de l'ONU sur les droits des migrants, Felipe González Morales, a lui appelé les États à placer les droits de l'homme au cœur de leur politique migratoire, à combattre les discours de haine et à mettre un terme à la criminalisation des migrants et de ceux qui leur viennent en aide.
3000 délégués de tous horizons ont participé durant 3 jours au Forum mondial sur les réfugiés. À Genève, ils ont tenté de trouver des solutions à la crise mondiale des réfugiés. Touré Mokhtar Chekaraou, directeur de cabinet du ministre des Affaires étrangères du Niger, explique les mécanismes créés dans son pays pour assister les réfugiés.
En 7 ans, le Niger est passé de quelques centaines de réfugiés à plus de 220 000. Mon pays compte également plus de 180 000 déplacés internes. Ces chiffres reflètent la détérioration de la situation sécuritaire dans la bande sahélo-saharienne. En Afrique, la durée moyenne de l'exil d'un réfugié est de 17 ans, soit une génération entière. Dans ce contexte, les camps de réfugiés ne peuvent être une option viable. Le Niger s'est donc engagé dans une ambitieuse politique alternative aux camps de réfugiés. Pour le cas des réfugiés venant du Nigeria et du Mali, un vaste programme d'urbanisation est en cours. Ce programme vise à assurer l'accès à la propriété foncière et aux logements sociaux aux réfugiés les plus vulnérables. Depuis novembre 2017, le Niger a mis en place un mécanisme d'évacuation d'urgence des réfugiés vulnérables présents en Libye. Plus de 3000 réfugiés ont ainsi déjà été évacués sur le sol nigérien. Parmi eux, plus de 2000 ont été réinstallés dans des pays tiers. Ce mécanisme reste un des principaux leviers à notre disposition pour porter une assistance durable aux personnes victimes de trafic en tout genre, vivant notamment en Libye.
Et puis, ce mercredi, le bureau de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie a condamné l'intensification récente des hostilités dans le nord-ouest du pays et en particulier les bombardements aériens. Le cessez-le-feu instauré au mois d'août a connu plusieurs violations. Christina Silvero revient sur les propos de la conseillère humanitaire Najat Rojdi.
Najat Rojdi a condamné l'intensification des hostilités à Idlib, dans le nord-ouest de la Syrie, où les bombardements aériens auraient tué des dizaines de civils, notamment des femmes et des enfants. Selon la conseillère humanitaire de l'envoyé spécial de l'ONU pour la Syrie, malgré les assurances répétées que les parties au conflit ne frappent que des objectifs militaires légitimes, les attaques contre les établissements de santé et d'éducation se poursuivent. Les habitants de ces régions font face à des difficultés considérables. Certains d'entre eux sont déplacés pour la 5e à la 10e fois. Beaucoup sont dans des camps surpeuplés où les services humanitaires sont déjà débordés et tout au milieu des pluies hivernales et de la baisse des températures, alors que les inondations menacent les camps et les campements de personnes déplacées. Madame Rojdi a appelé à une désescalade immédiate et exhorté toutes les parties à respecter leur obligation d'assurer la protection des civils et de leur infrastructure, y compris lors des opérations antiterroristes. Il faut garantir un accès humanitaire durable, sans entrave et sûr aux civils dans le besoin, afin de permettre à l'ONU et à ses partenaires humanitaires de continuer à mener leurs activités essentielles dans le nord du pays.
Après 2 ans et demi passés à New York, la représentante permanente de l'Organisation internationale de la francophonie auprès des Nations unies, Narges Saïdan, quitte donc ses fonctions. Avant de voguer vers de nouvelles aventures, elle a bien voulu se prêter au jeu des questions-réponses dans les studios d'ONU Info et aborder notamment les prochaines célébrations des 50 ans de la francophonie.
À partir du 20 mars 2020, nous serons dans le contexte du cinquantenaire et nous ne nous arrêterons qu'à la fin de l'année 2020, le 18e sommet de la francophonie des chefs d'État et de gouvernement qui se tiendra à Tunis en décembre 2020 sera un peu l'apothéose de l'ensemble des célébrations. Et pour le contexte particulier de New York, il est vrai qu'au-delà de la journée, de la semaine et du mois, nous sommes allés vers un printemps depuis 2017, aussi parce que la terminologie du printemps est porteuse de beaucoup d'espoir, de beaucoup de renouvellement et de beaucoup d'opportunités. Donc il s'agissait aussi de faire valoir le fait que nous souhaitions avoir un peu plus de temps pour faire connaître toute la diversité et la richesse de l'espace francophone et emporter les valeurs pendant un petit peu plus longtemps et peut-être de manière un petit peu plus innovante ou un peu innovante dans le cadre d'un printemps.
Alors après 2 ans et demi de présence à New York, qu'est-ce que Narges Saïdan retient? Qu'est-ce qui vous rend fier aujourd'hui de votre présence et de votre mobilisation ici à New York?
D'abord, ce que j'ai pu beaucoup apprécier, parce que je venais des Nations Unies, mais je venais de l'organisation de développement sur le terrain, donc j'ai particulièrement découvert l'engagement des États membres aux Nations Unies et aussi tout l'engagement du secrétariat sur des problématiques qui sont les problématiques critiques de l'ensemble des transformations dont le monde a besoin aujourd'hui. Donc l'appréciation d'avoir découvert un monde que je ne connaissais pas à travers un groupe des ambassadeurs francophones particulièrement actifs et engagés, et à découvrir véritablement une réalité, y inclut celle de la langue et du multilinguisme que je n'avais absolument pas mesurée dans toutes ces valeurs ou toutes ces dimensions politiques au sein de la plateforme multilatérale. J'ai la grande chance, pour marquer la fin de mon mandat, ce soir, 18 décembre, de clôturer avec une réunion du groupe des ambassadeurs francophones qui sera honorée de la présence du ministre des Affaires étrangères de la Côte d'Ivoire avec qui nous avons lancé la plateforme francophone pour le Conseil de sécurité. Et une réalisation dont je suis particulièrement fière en dehors de celle du printemps et peut-être de quelques autres suivis. Je pense aussi que l'ensemble des efforts que nous avons consentis ces 2 dernières années pour soutenir nos États membres, notamment au niveau de leurs experts, pour s'engager sur un certain nombre des thématiques qu'ils ont à traiter, très très complexes. Et donc ces séminaires de formation et d'information que nous avons tenus, ces réseaux que nous avons mis en place, à venir la structuration d'un réseau des fonctionnaires francophones aux Nations Unies qui prend un relais très très important pour à la fois le multilinguisme, mais aussi toute la façon de penser, de proposer des solutions. Tout ça, globalement, me rend plutôt heureuse. Je regretterais sans doute de ne pas être là pour le cinquantenaire, mais je suis tout à fait confiante que le partenariat que nous avons amplifié va se poursuivre de manière exponentielle dans les années à venir. Donc je suis très heureuse de cela.
Il y a une réunion qui a eu lieu justement au siège de votre représentation il y a quelques jours qui mêlait de nombreux représentants du monde francophone à New York notamment et dans les États limitrophes et une ouverture à la société civile, à d'autres partenaires qui ne sont pas forcément dans le giron des Nations Unies. Ça également, c'est quelque chose que vous avez souhaité amplifier, accroître à travers notamment la culture ?
Absolument, parce que nous sommes une organisation qui a de gros volets politiques et de développement, mais aussi, et vous avez raison de le souligner, un volet culturel fort. Nous avions pour tradition de mener justement le printemps de la francophonie avec des partenaires hors ONU qui ont toujours répondu à l'appel. Donc c'était une réunion effectivement qui rassemblait à la fois des porteurs d'activités culturelles, mais aussi des universités comme Princeton, comme l'université de New York NYU, avec laquelle nous menons et nous menerons la 3e édition du Festival des 5 continents en avril prochain. Donc ce volet culturel, il a aussi vocation à faire mieux connaître la francophonie dans toute sa diversité et sa richesse, à travers une langue certes, mais aussi à travers de multiples cultures. J'aime à parler de francophonie au pluriel, parce que c'est ce qui en fait tout l'intérêt aujourd'hui. D'abord parce que nous parlons tous dans l'espace francophone une autre langue que le français, voire plusieurs autres langues que le français, et c'est ce qui nous amène à enrichir toujours plus à la fois la langue française, mais aussi la culture francophone. Donc je pense qu'effectivement ce volet culturel était un volet important à intensifier dans le cadre justement du printemps de la francophonie.
Voilà, fin de ce journal d'ONU Info à retrouver sur internet mais aussi sur les médias sociaux. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain, même heure, même fréquence.